les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Peut-être vous souvenez-vous de cette histoire qui se déroule à Kalachi, un village du Kazakhstan au début des années 2010. Une agricultrice en train de traire ses vaches, un homme en train de marcher, un troisième qui travaille, en tout 150 habitants de cette bourgade de 600 âmes, s'endorment subitement en plein milieu de leur activité. Enfants, personnes âgées, femmes et hommes, personne n'est épargné par cette étrange épidémie du sommeil. Ils s'endorment en général entre 2 et 6 jours avant de se réveiller sans séquelles apparentes de ce grand plongeon. Pendant les quelques 5 années que dure le phénomène, les hypothèses vont bon train. Le village attire des scientifiques du monde entier. Une certaine vodka frelatée est d'abord tenue pour responsable, mais quand les premiers enfants commencent à s'endormir, la vodka est absoute. Puis on teste les sols, l'eau, l'air, le sang, les différents tissus pour étudier les bactéries et les virus. Une hypothèse neurologique sous forme d'un syndrome de Klein-Levin, dit vulgairement hypersomnie, est soulevée. Mais en réalité, le phénomène est trop rare pour toucher un village entier. Reste la possibilité d'une sorte de psychose de masse qui se produirait parfois dans les communautés dites reculées. Mais l'option est trop farfelue. On soupçonne bien, et depuis longtemps, une ville voisine où était exploitée jusqu'au début des années 90 une mine d'uranium. Mais aucune trace d'uranium n'apparaît dans les analyses. Il faut attendre juillet de l'année dernière pour comprendre qu'aucune cause unique à l'épidémie de sommeil n'est identifiable, mais qu'il s'agit d'une combinaison de 3 facteurs : le manque d'oxygène, un excès de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures. Chacune de ces 3 composantes prises séparément est à un niveau normal, explique dans Le Monde un responsable kazakh à l'époque. Mais quand il y a une combinaison de 3 facteurs, on observe alors un effet de synergie classique. L'évacuation du village peut alors commencer. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, 3 autres histoires de sommeil, hypersomnie, insomnie et autres réjouissances de nos nuits blanches et de nos jours sans fin par Élise Andrieux.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Donc là, c'est mon album photo. Ça, c'était la soirée du mariage civil. On avait fait une soirée paix. Enfin, par rapport à mon nom de famille, on avait décidé que tout le monde devait s'habiller par la lettre qui commence par P. Et moi, j'étais en Pocahontas et mon mari s'était déguisé en pape. C'était drôle. C'était vraiment une super soirée. Ma meilleure amie, qui était témoin. Mon frère, en patineur, il était très bien déguisé. Des poulets. Et on avait fait des beaux cartons d'invitation. Donc là, c'est le faire-part classique. Clémentine et Édouard, samedi 28 avril 2012. C'était vraiment génial. Pourtant, ça a été ma première insomnie, du coup. C'était le lendemain du mariage civil. Horrible. On vient de se marier, enfin, c'était une super journée, on a vu un super beau temps en plus pour le mois de février, on était trop contents, voilà, et pas moyen de trouver le sommeil. J'arrivais pas à m'endormir, c'était terrible, pourtant je m'étais couchée hyper tard la veille, on avait fait la fête, et je me souviens, je retournais dans mon lit, et impossible de dormir. Finalement, à 6h30, 7h, je me réveille pour partir au travail en me disant « Mais pourquoi t'as pas dormi ?» Puis je me dis « Bon, bah, ça ira mieux le soir. » Mais quand même, j'arrive un peu stressée. Je vais me coucher hyper tôt, 8h30, 9h, et je me dis « Il faut que je dors. » Et là, je ne dors pas. Les heures passent. Minuit, je dors pas. 1h, je dors pas. 2h, je dors pas. J'ai pas dormi de la nuit, donc. Et ça a été un peu le début, parce que j'ai voulu comprendre pourquoi j'avais pas dormi. J'allais chercher dans tous les recoins de mon cerveau, en me disant, mais qu'est-ce que j'ai pas vu ? Alors, bien sûr, c'est Edouard, je me dis, oh, je me suis plantée, j'aurais jamais dû me marier, enfin... Je me suis dit, j'ai jamais eu de problème d'insomnie en étant avec mon mari. À ce moment-là, je me suis dit, je ne dors plus parce que je suis mariée. Donc pour moi, le truc en plus, c'est le mariage. Donc je me dis, si j'enlève le mariage, je vais redormir. Voilà, je voulais ne plus être mariée. Et c'est terrible, j'explique ça à mon mari, enfin, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu crois pas qu'il faut qu'on divorce? Mais on reste quand même ensemble, parce que je t'aime, j'ai pas envie de te quitter, enfin... Mon mari est très calme, donc ça l'inquiète pas plus que ça. Mais après, tout s'est focalisé sur le sommeil. C'était mon obsession. Et là, ça a été 3 mois d'insomnie terrible. Donc là, j'ai démarré des vrais problèmes de sommeil, en fait. Je me tournais, me retournais dans mon lit, parfois je finissais par sortir. J'étais obsédée par l'idée de dormir, mais obsédée, c'est-à-dire que je me souviens de nuit à avoir envie de me taper la tête contre les murs, quoi, enfin vouloir m'assommer, quoi, me dire mais tu vas dormir, enfin vraiment. Hein. Pour moi c'est un enfer, enfin, c'est un cauchemar, enfin c'est horrible, vous êtes seul déjà. En fait c'est ça aussi qui est dur, c'est que la nuit on est seul, et c'est ça qui est encore plus dur, c'est qu'on est face à une angoisse et on... C'est comme une prison sans mur, en fait. Parce qu'on est juste emprisonné dans une impossibilité de dormir et on ne sait pas comment sortir. Vous mettez tout l'enjeu sur votre sommeil, puisqu'effectivement, quand on n'a pas dormi, les journées sont moins efficaces, on est moins bien, on a froid, on est fatigué. Et là, c'est un cercle vicieux qui démarre. Et finalement, je faisais généralement 2 nuits d'insomnie complète, hein. Et la troisième, je redormais. Enfin, c'était un peu ça, mon rythme. Bah, j'ai m'écroulé de fatigue, en fait, hein, tout simplement. Et voilà, ça a été vraiment... J'ai cherché toutes les solutions jusqu'à ce que je tombe enceinte. Donc je suis tombée enceinte et bon, c'était vraiment problématique parce que j'avais commencé un peu des somnifères, donc ça pouvait être dangereux pour le bébé. Donc j'arrête toute solution médicamenteuse et c'est là où je me suis remise à dormir du jour au lendemain. C'est-à-dire que je n'ai plus d'insomnie pendant mes 9 mois de grossesse et pendant les 7 mois qui ont suivi la naissance de mon fils. En fait, tout simplement, mon sommeil n'était plus un problème. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir la mécanique de l'insomnie. C'est-à-dire que là, l'angoisse de perdre le bébé, de faire une fausse couche, ou que les médicaments que j'ai pris aient pu avoir une incidence sur son développement, cette angoisse-là était plus forte que celle de ne pas dormir. Du coup, je lâchais prise sur le sommeil, puisque ça m'angoissait plus. Enfin, je pensais plus pendant mes journées, est-ce que je vais dormir ce soir, est-ce que je vais pas dormir, est-ce que ceci. Mais du coup, je me suis mise à redormir du jour au lendemain. Et ça y est, je me suis dit que mon problème était fini. C'est vraiment 16 mois de lune de miel avec mon sommeil. Je dors très très bien. Puis avec un bébé, on dort très bien, hein, parce qu'on est fatigué quand même. Et je reprends le travail. Et là, forcément, la veille d'une rentrée, après 16 mois d'interruption, on est un peu stressé. Donc on dort moins bien. C'était comme replonger dans un cauchemar. Enfin, c'est pas vrai, ça revient. Enfin, donc ça a été ma seconde vague d'insomnie. Et puis, un moment, je me suis dit, bah, puisque je dors pas, faisons plein de trucs, quoi. Enfin, voilà, je me suis mise à faire des puzzles, j'ai fait mes albums photos. Parfois, je chantais, je marchais. Enfin, j'ai lu, j'ai énormément lu. Et voilà, j'ai voulu sublimer mes insomnies. Je rends mes insomnies belles, en fait. En fait, je pense qu'il y a un problème avec le mariage et effectivement l'angoisse, parce que je pense que j'ai vu ma mère très malheureuse en mariage avec mon père. Et est-ce que j'ai pas porté le chapeau de ce mariage raté? Et que cette douleur s'est réveillée au moment de mon propre mariage. Et une nuit, je me suis dit, bon, visiblement, il y a quelqu'un en moi qui... Voilà, enfin, il y a une petite fille qui va pas bien, donc j'ai pris le temps de lui parler. Je pense que j'ai parlé 3 heures à cette petite fille qui était en moi, enfin, vraiment. À cette petite Clémentine, je me suis visualisée, je me suis vue quand j'étais plus jeune. Enfin, j'étais une petite fille assez chétive. Bon, j'étais très blanche, très maigre, parce que je pense que j'étais pas très bien. Mes parents avaient divorcé. Enfin, j'avais vraiment cette image-là de cette petite fille de 6 ans, hein, parce que quand mes parents avaient divorcé, j'avais 6 ans. je la vois, je l'avais vraiment mise en face de moi, on était face à face, et puis je lui parlais, enfin, je la voyais triste. Elle n'existait pas, hein, et bien sûr, je suis pas folle, hein, je sais que c'était mon imagination. Je me suis revue petite avec mes émotions, celles que j'ai un peu toujours cachées, cette tristesse. Mes parents divorcés, je voyais ma mère qui travaillait beaucoup, ma mère qui était aussi angoissée. Moi, j'étais une excellente élève, mais vraiment excellente, parce que voilà, il fallait que je pose aucun problème à maman d'ailleurs, parce que j'étais très facile. Mais au fond, j'étais d'une tristesse incroyable. J'ai des souvenirs dans ma chambre à pleurer parce que. Voilà, parce que mon père repartait. Et au fur et à mesure, c'est marrant parce que physiquement, je me suis déplacée, je me suis mise sur la chaise à côté, je me suis rapprochée d'elle et j'ai le souvenir physique d'avoir fait semblant d'enlacer, enfin, Clémentine. Je l'ai laissée exister et surtout, je me suis permise de la consoler. Ah, ça me fait un peu pleurer parce que je l'ai laissée exprimer ce qu'elle n'exprimait pas, en fait. Je me suis toujours forcée à être parfaite. Et je voyais cette petite fille qui finalement avait peur, quoi. Enfin, je pense que c'est elle qui n'arrivait pas à dormir. Je pense qu'elle avait peur. J'ai beaucoup pleuré cette nuit-là, beaucoup pleuré. Et ça a été une très belle insomnie. Je me souviens. Et finalement, enfin, il devait être 3-4 heures du mat. J'ai été me coucher et je me suis endormie tout de suite. Moi, j'ai décidé d'écouter mes insomnies parce qu'elles sont là, parce qu'elles me permettent d'être dans le vrai, parce que on va au fond de soi-même quand on a des problèmes de sommeil. Au fond, c'est une force. Hein. Enfin, vous voyez, mes insomnies, c'est à la fois la pire et la plus belle des choses qui me soient arrivées.
Je m'appelle Olivier, je suis depuis l'année 2007 diagnostiqué hypersomniaque et je me souviens d'avoir toujours eu un sommeil très très lourd, d'avoir été vaseux assez souvent, d'avoir dormi dans des cours d'école. J'ai besoin des fois de 12 heures de sommeil, même avec les médicaments. Et avant d'être médicamenté, je dormais, ça pouvait arriver à dormir 18 heures, plus des petites siestes. Donc j'ai été diagnostiqué en 2007, suite à une visite de contrôle du médecin du travail. J'étais employé comme commercial, donc je livrais des surgelés à domicile. J'ai appelé mon employeur pour venir me dépanner du camion que j'avais mis dans le fossé parce que je m'étais endormi. Donc il fallait le tirer de là et a dit « Bon ben Olivier, tu as normalement une visite médecin du travail la semaine prochaine. On la décale, on la met maintenant, on verra ce qu'il y a. » Et là le médecin du travail a très bien vu que les médicaments qu'on me donnait pour la fatigue étaient beaucoup trop importantes, que j'en prenais trop. M'a renvoyé vers l'hôpital du Mans en pneumologie et neurologie, où là, les médecins ont découvert l'hypersomnie. C'était en 2007, j'avais 43 ans, je crois. J'en ai maintenant 50. Moi, l'hypersomnie, j'ai le temps de le ressentir, le sommeil venir. J'ai les mains qui suintent, les yeux pleurent, j'ai très très chaud. Et le sommeil arrive et c'est comme un chapeau qu'on a au-dessus de la tête, contre lequel on ne peut pas lutter en fait. On sait qu'on va avoir ça, mais on ne peut pas lutter. C'est un peu comme si on n'avait pas dormi pendant 3 jours. Quand j'ai une bouffée de chaleur, je sais qu'il me reste 15 minutes pour prendre mon médicament. Si au bout d'un quart d'heure, le médicament n'a pas fait effet, Je regarde autour de moi, là où je me trouve, et j'essaie de trouver un endroit qui va être plus ou moins adapté au fait que j'ai besoin de dormir. Donc ça va de la moquette à la sécurité sociale, le goudron sur le parking. Je me souviens d'un cas où j'ai eu très très peur à la fin, donc ça m'a vraiment beaucoup pesé. C'est le 31 août 2014, je crois, quand je me rendais à Sablé-sur-Sarthe en train, en partant du Mans, afin de rejoindre des amis qui m'attendaient à la gare de Sablé. Donc je prends mon horaire de train, je partais à 18h23, donc tout allait bien. Monté dans le train, à peu près 5 minutes après, j'ai eu une bouffée de sommeil. Donc j'ai pris mon médicament, je me suis mis autour de mon sac pour pas qu'on me le vole. J'ai sorti mon billet de train pour que le contrôleur voit que je dois m'arrêter à Sablé. Et puis j'ai sorti une carte de ma poche indiquant que je suis narcoleptique. Et je me suis endormi, mais vraiment dans un sommeil très très profond. Manque de peau, le contrôleur est bienvenu, avant Sablé, m'a vu dormir, a juste regardé le billet de train, mais pas la carte informant de ma maladie, et m'a descendu du train pendant mon sommeil. Et je me suis retrouvé sur le quai de la gare, avec mon sac, le train est reparti. Mes amis étaient à la gare de Sablé, m'attendaient, ne me voyant pas puisque j'étais allongé en bout de quai de la gare, sont repartis, ont téléphoné, mais mon téléphone sonnait dans mon manteau, mais moi, impossible de me réveiller. Donc j'étais là, allongé par terre. En plus, il pleuvait ce jour-là. Je ne sentais même pas la pluie tomber. Il y a enfin eu le chef de gare qui a vu une masse au bout du quai, qui s'est approché de moi. Lui m'a mis la couverture isolante et s'est attaché à ce que les pompiers viennent me prendre. Ensuite, j'ai réussi à me réveiller dans le camion des pompiers. Et là, j'ai commencé à être vraiment assez en forme pour pouvoir expliquer aux pompiers que j'avais cette maladie-là, que c'était normal, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, mais lui devait lui faire son travail, c'est-à-dire emmener vers un médecin qui lui dirait ce qu'il faut faire. Donc c'est quand j'ai pu téléphoner à mes amis que j'étais à l'hôpital de Sablé, il était à peu près 21h30 le soir, qu'ils sont venus me chercher, et c'est seulement là que le médecin s'est dit « bon, on peut le laisser sortir ». Et le soir, j'ai quand même redormi 12 heures après ça. Les gens qui ne savent pas sont un peu interloqués devant quelqu'un qui, d'un seul coup, en plein après-midi, a besoin d'aller dormir. Si je lis, avant je lisais beaucoup, je faisais à peu près 4-5 chapitres d'un bouquin d'un seul coup. Maintenant, 3 pages, c'est assez difficile. Si je suis dans une file d'attente, où j'attends, je suis passif. Ça aide à ce que mes crises arrivent. Si c'est un cinéma, je m'endors maintenant à un quart d'heure, une demi-heure de la séance. Donc je ne vais plus au cinéma. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quel travail parce que beaucoup nous sont interdits. Mon parcours professionnel, c'est surtout dans la restauration. J'ai 24 ans de maison, je veux dire, même si j'en ai fait plusieurs. Donc je me suis dit, pourquoi pas revenir à un travail où... je peux travailler sans coupure, que ce soit plus condensé et avec des compétences que j'ai eues auparavant. Donc j'ai demandé à faire une reconversion en cuisinier en collectivité qui pouvait me permettre, par exemple, dans une école, de travailler sans coupure. On m'a dit que c'était pas possible parce que je ne pouvais pas utiliser d'outils dangereux au travail. Et donc en cuisine, il y a des trancheuses à jambon, il y a des couteaux, et que c'était trop dangereux pour moi. Je voulais faire tailleur sur pierre. On m'a dit que non, parce qu'il y avait des marteaux et des burins, que c'était trop dangereux pour moi. Tout ce qui est travail au volant nous est strictement interdit. On n'a pratiquement plus le droit de conduire, ce qui est normal, je trouve. Donc à la fin, ça m'a énervé et j'ai regardé la personne, je lui ai dit « Oui, mais si je me mets écrivain public et que je m'endors sur mon crayon, ça va être dangereux, je vais me percer l'œil, donc arrêtez un petit peu, donnez-moi un travail. » Donc c'est assez difficile à gérer, je dirais même à digérer. Je ne travaille plus depuis 3 ans. Donc on se sent rejeté, on se sent dénigré.
Là, vous n'avez pas envie de dormir ?
Là, non. Comme on parle, et vous avez vu, je me suis levé, je suis allé au balcon et je suis revenu. Là, je suis debout. J'ai pris mes précautions. J'ai quand même bien dormi hier après-midi avant de manger. J'ai redormi encore 12 heures cette nuit. Là, ça va aller jusqu'à 9 heures. C'est vers les 8h30, 9 heures où ça va être plus difficile. Heureusement qu'il y a le médicament. Alors, c'est ça mon médicament. Un demi, avec un verre d'eau, et puis voilà. C'est reparti pour 6 heures.
France Culture, les pieds sur terre.
J'avais environ 25 ans, je ne me souviens plus exactement, puisque j'avais terminé mes études universitaires et que je complétais par des formations en psychothérapie. J'étais dans une période où je travaillais énormément. J'étudiais, je travaillais pour gagner ma vie, j'avais des activités sportives aussi assez intenses. Donc c'était apparemment un soir comme les autres. Et au moment où je m'endormais, j'ai senti qu'il y avait... bizarrement, quelqu'un dans la pièce, alors qu'évidemment, j'étais seule ce soir-là, porte et fenêtre fermées. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une personne malveillante. C'est difficile à expliquer, mais c'est une sensation extrêmement désagréable. J'ai voulu ouvrir les yeux parce que j'étais en train de m'endormir, et effectivement, j'ai pu ouvrir les yeux, mais ça s'est arrêté là. Impossible de bouger. L'oppression sur la poitrine due au stress et à l'angoisse, donc une respiration qui devenait plus rapide. Et comble de l'horreur, je commence à distinguer dans la pénombre une silhouette d'homme qui m'est apparue avec des traits grossiers, assez frustes. Je me disais que c'était absolument impossible que cet homme-là soit dans ma chambre. Donc je vois cet homme qui s'avance vers moi, impossible de bouger, impossible de crier, de demander l'aide. Et là, la terreur m'a prise. Et cet homme s'est approché de moi, il a mis ses mains sur ma gorge comme pour m'étouffer. Il s'est allongé sur moi, donc des sensations d'étouffement, étant malmené, violenté, on peut dire. J'ai eu envie de crier, j'ai eu envie de bouger, j'avais envie de me défendre, de taper cette personne, simplement de me défendre. Et je ne pouvais pas. Donc c'est extrêmement angoissant. J'ai l'impression que ça a duré une éternité, alors que je pense que ça a duré peut-être au maximum 2-3 minutes. Et de me réveiller le lendemain matin avec le souvenir de ce qui m'était arrivé, quelque chose d'extrêmement réel, alors que lorsqu'on cauchemarde ou qu'on rêve, on sait que c'est un rêve, même les personnes qui font des rêves lucides savent qu'ils sont en train de rêver. Et là, pour moi, c'était une expérience extrêmement réelle. Bon, et puis j'ai chassé ça de ma mémoire dans la journée. Et cette expérience m'est arrivée 10, 15 fois, je ne sais plus exactement. Je m'appelle Patricia, je suis psychologue, psychothérapeute et je parle aujourd'hui de la paralysie du sommeil parce que ça fait partie des expériences que j'ai mis le plus de temps à partager, à décrire et même à étudier puisque ça fait très peu de temps que j'ai découvert que ce symptôme que j'avais vécu s'appelait paralysie du sommeil. Donc les nuits qui ont suivi, j'ai à nouveau eu peur, évidemment, et les soirs qui suivent, avoir peur de m'endormir et de me réveiller le lendemain matin avec le souvenir très vif de ce qui était arrivé. Je voyais bien que ce n'était pas quelqu'un de réel en chair et en os, mais c'était comme un fantôme. C'est comme un spectre, comme une entité. Il n'y a pas véritablement de couleur, c'est un peu grisâtre, marronasse, enfin, c'est vraiment une couleur indéfinissable et pas très jolie, et des sortes de grognements. Pour moi, c'était totalement réel. Au fond de moi, je savais que je n'étais pas folle, mais que là, j'étais en train de traverser un moment de déséquilibre intense. Mais c'est surtout que j'avais peur que les autres me prennent pour une folle. Alors, ces expériences ont duré deux petites années. Et comme j'avais déjà étudié la sophrologie et l'hypnose, j'ai très vite essayé d'appliquer ces techniques lors de la paralysie du sommeil. Donc je me suis efforcée d'essayer de respirer le plus lentement possible pour ralentir les battements cardiaques, donc pour être moins stressée et parvenir à me réveiller. Puisqu'à partir du moment où on est totalement réveillé, où on peut bouger, évidemment on n'a plus du tout ces sortes d'hallucinations de perception et le personnage en question disparaît. Petit à petit, je pense que ça a aidé aussi à l'espacement de ces expériences et à leur disparition totale. La paralysie du sommeil, c'est une parasomnie, c'est-à-dire que c'est un symptôme lié à un état de sommeil qui ne se fait pas normalement. C'est-à-dire qu'au moment où on s'endort, un mécanisme nous permet de rester immobile pour justement ne pas mettre en scène nos rêves, et un mécanisme nous permet de nous réveiller. Et justement, dans la paralysie du sommeil, ce mécanisme ne fonctionne plus. Quand on est censé rêver, on rêve et on est réveillé en même temps, sans pouvoir bouger. Donc il y a vraiment une sorte de confusion et de mécanisme qui ne se fait plus. Au-delà de comprendre, parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi on vit ça, tant sur le plan scientifique que sur le plan personnel, je pense que c'est une expérience initiatique comme une autre, et que c'est une voie d'exploration et de compréhension vers soi-même. C'est de comprendre ce qui se passe en nous et d'avancer en trouvant des techniques pour s'en sortir et aller mieux.
Aujourd'hui encore, c'était Des pieds sur terre et des histoires de sommeil, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Emmanuel Geoffroy. L'attachée de production, c'est bien sûr Sandrine Chaperon. Merci à Clémentine, à Olivier, à Patricia, au réseau Morphée, à France Insomnie, à l'association française Narcolepsie Cataplexie, à tous les centres du sommeil des hôpitaux d'Île-de-France et à l'association des jambes sans repos. N'hésitez pas à partager nos émissions sur Facebook et Twitter, ainsi qu'à les commenter si elles vous ont intéressé.